Bonjour, c'est Marie-Hélène et aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous parler d'un livre illustré. Bon, c'est un sacré pari de parler d'un livre illustré à la radio, mais je vais tenter de le faire et surtout de vous donner envie de le lire parce que pour ma part, j'ai trouvé ça excellent. Le titre de ce livre, qui a toute l'apparence d'une BD mais qui n'en est pas une, c'est 1914-1918, la pub est déclarée. Oui, vous avez bien entendu. Et l'auteur, c'est Didier Denex. Alors un petit mot quand même de Didier Denex. Donc, vous avez dû en entendre parler, c'est un auteur très connu, de romans policiers notamment, mais aussi de nouvelles, d'essais, de livres pour la jeunesse. Il a pris le parti d'orienter son œuvre vers une critique sociale et politique, au travers de laquelle il aborde certains dossiers du moment. Il a notamment écrit sur la politique des charters, sur le négationnisme, etc. Mais aussi d'un passé parfois oublié. Il a notamment pas mal écrit autour de l'histoire du XXe siècle. Il a aussi publié plusieurs BD avec des dessinateurs comme Tardi, Mako, Asaf Hanouka ou Emmanuel Rosé, entre autres. Bref, Didier Denex est un auteur à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Alors, c'est pas étonnant que Didier Denex nous parle de la période 14-18. C'est une période à laquelle il a déjà consacré un livre, à la Der de Der, et à laquelle il s'est beaucoup intéressé. Mais dans 14-18, la pub est déclarée, il choisit un angle d'approche très différent. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La publicité ne sera pas insensible à cet événement. Mieux, elle va incorporer le conflit dans son discours. Elle saura progressivement attendrir l'arrière, galvaniser la fibre patriotique, ou encore fustiger l'ennemi. Mais si la pub choisit son camp et s'unit derrière le drapeau, la guerre deviendra un formidable prétexte pour vendre tout et n'importe quoi. Très vite, il ne sera plus surprenant de faire cohabiter dans la presse une réclame pour un masque à gaz anti-asphyxiant avec de la poudre de cacao, tandis que les mérites de tel ou tel savon côtoieront les encarts pour une jambe de bois articulée. Évidemment 100% française. Alors, pour illustrer tout ça, Didier Denex, il nous présente une collection d'affiches publicitaires de cette période. Et pour suivre le fil du récit, il invente le personnage d'une jolie dactylographe de l'agence Siècle Publicité, qui va devenir, après le départ des hommes de l'agence au front, une publiciste reconnue. Voilà le fil de cette histoire. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques extraits. Voilà comment débute le livre. Vendre, tel est le problème, parfois difficile à résoudre, qui se présente journellement à l'attention du commerçant. Fabriquer des objets, accumuler des stocks de marchandises ne servira à rien si, par un moyen quelconque, on ne trouvait la possibilité d'écouler le tout dans la consommation. Aujourd'hui, ce problème est de plus en plus ardu. Il n'est plus permis d'attendre que l'acheteur vienne. Il faut aller le chercher là où il se trouve. Parfois même, il est nécessaire, pour des objets ou des produits nouveaux, de créer un acheteur qui n'existait pas hier. Lui suggérer des besoins. Inventer le désir. C'est en cela que consiste notre travail, mademoiselle Bonnier. Vous comprenez ? Inventer le désir. C'est au mot près le discours qu'on m'avait tenu Octave-Pierre Guérin, le président fondateur de l'agence Siècle Publicité, quand il m'avait engagé pour m'occuper du secrétariat de son entreprise, créée 14 années plus tôt, lors de l'exposition universelle de 1900. J'étais fraîchement diplômée de l'école Pigier du 147 rue de Rennes et c'était mon premier rendez-vous professionnel. Mon rang à l'examen de sténographie, méthode Prévost-Delaunay, ainsi que ma vitesse de frappe sur machine à écrire royale, m'avait valu une lettre de recommandation qui avait fait forte impression sur mon futur employeur. Il n'en fallut pas moins pour que M. Guérin accepte de confier à une jeune femme sans expérience le poste de confiance occupé par Gustave, son propre fils, jusqu'à ce qu'il réponde à l'ordre de mobilisation générale au premier jour d'août 1914. Donc voilà comment mademoiselle Bonnier rentre dans une agence de publicité et comment elle va devenir une fameuse publicitaire. Alors un autre petit exemple. Un drame affreux m'avait privé des lumières de Monsieur Audureau, qui était un de ses collègues, donc au début de l'automne, quand son fils aîné avait été déchiqueté dans l'explosion du dépôt de munitions dont il avait la garde, près de Château-Thierry. Monsieur Audureau avait dû se retirer en province pour s'occuper de sa femme, aux nerfs brisés par l'émotion. Le président, Octave-Pierre Guérin, avait remarqué mon vif intérêt pour la composition des encarts publicitaires. Il m'avait convoqué pour me dire qu'on ne réussit pas dans le domaine de la réclame en comptant sur des dons naturels, qu'il faut les posséder bien sûr, mais qu'il est nécessaire de les développer par des techniques qui font appel aussi bien à la psychologie, à la théorie de la suggestion, à la connaissance des lois de la vision et de la lecture, à la maîtrise de l'originalité, qu'à la familiarité avec des procédés d'impression et les systèmes de diffusion. Puis il avait fini par me confier combien l'absence soudaine de M. Audureau pénalisait l'entreprise. C'est un métier extrêmement récent et les événements nous privent hélas de nos meilleurs éléments. En attendant de trouver un remplaçant, je pensais que vous pourriez expédier les affaires courantes. Voilà mademoiselle Bonnier qui monte en grade dans l'entreprise Siècle Publicité. Alors un petit peu plus tard, c'est une lettre de mon frère aîné Antoine, qui bien sûr était au front, qui m'avait conduite à accepter de bâtir une suite d'articles de sensibilisation sur la dératisation alors que le sujet me répugnait grandement. La vue d'une simple souris me faisait pousser les hauts cris. Donc voilà la lettre du frère Antoine. Donc. Les Prussiens, depuis quelques semaines, ont plutôt tendance à diminuer. Les rats, au contraire, augmentent. C'est une invasion formidable, pire que l'autre. On marche littéralement dessus. Un institut nous a envoyé son virus et de grands savants nous ont enseigné leurs remèdes arsénico-chimiques. Mais tout ça vaut les méthodes de la conférence de La Haye pour empêcher les peuples de se battre. On arrive peut-être à mettre à la raison des rats de paix, mais pas des rats de guerre, gros comme des lapins, et pour lesquels les prescriptions scientifiques ne sont que de vulgaires chiffons de papier. Donc c'est mademoiselle Bonnier qui parle. J'avais eu l'impression d'être près de lui, de venir à son secours en portant à la connaissance du plus grand nombre les conseils contenus dans le manuel de dératisation à l'usage des rats communs et des rats savants, élaboré par la manufacture de masse de Villefranche de Rouergue. Je me sentais plus utile encore, divulguant ses secrets, que lorsque je souscrivais à l'emprunt national de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais les 10 ou les 15 francs difficilement épargnés dans le mois sur une paye qui était loin de récompenser mes efforts et inférieure d'un tiers par rapport à d'autres employés masculins qui ne supportaient pas le poids de mes responsabilités. Parce qu'on voit bien là aussi qu'il a joué sur cet aspect-là, les femmes qui prennent la place des hommes, Didier Denynx dans ce livre. Allez, encore un petit bout. Alors là, on se rapproche de la fin. C'est même la fin, la guerre est terminée. Et c'est un peu problématique, parce que du coup, de quoi va-t-on faire la publicité ? J'étais restée au service de M. Octave-Pierre Guérin l'année qui avait suivi la victoire, tandis que Jules, alors Jules c'est son fiancé qui est rentré du front, non ? Tandis que Jules se morfondait, ne trouvant que des propositions de travaux de courte durée qu'il recevait comme des aumônes. Le voyant dépérir, je me creusais la tête pour trouver un moyen de l'associer à nouveau à la passion que me procurait mon travail. Jusqu'au jour où une petite lumière s'était allumée dans mon esprit, en entendant les proches de soldats disparus formuler le souhait d'aller se recueillir sur le lieu de leur disparition. Il existait un impérieux besoin de communion, et peu à peu j'avais élaboré le moyen de le satisfaire. C'est ces réflexions qui m'avaient amené à créer la première agence de tourisme sur les lieux emblématiques de la Grande Guerre. Le reporter du Touring Club que j'avais invité à mon tour des champs de bataille inaugural s'était montré élogieux. Singulière expérience que ce voyage qui nous amenait de Paris à Verdun, en passant par Château-Thierry, le chemin des Dames, Reims, Sainte-Ménéhoulde pour atteindre Verdun. C'est madame Marthe Bonnier, ancienne employée du siècle publicité, qui a eu l'idée innovante de cette visite sur les traces des combats mêlant tourisme et histoire. Elle est accompagnée dans cette entreprise par son mari, un héros marqué dans sa chair, qui s'est mué en un guide d'expérience. Voilà la fin de cette période 14-18, où on voit, et c'est d'ailleurs la dernière phrase du livre, où Mademoiselle Bonnier dit toujours « J'avais fait mes premières armes en vendant la guerre. J'allais voir maintenant si j'étais capable de vendre la paix. » Voilà ce livre, un livre document à la fois instructif et drôle, même si souvent on rigole. Donc je rappelle que tout ça est illustré de nombreuses affiches extraordinaires de cette époque-là. Mais la pub est déclarée nous parle aussi de notre époque, dans laquelle la publicité est devenue tellement omniprésente que l'on n'y fait même pas attention. Et puis on a vu que la publicité a bien su s'adapter à la paix, et puis à de nouvelles guerres et à de nouvelles paix. Voilà, un livre à ne pas manquer. Donc je vous rappelle le titre, La pub est déclarée, c'est écrit par Didier Denex, c'est édité aux éditions Webec, et vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.